les podcasts de Radio Vatican.
Après l'Italie, c'est au tour de la France d'avoir ses couloirs humanitaires pour accueillir des réfugiés syriens. Un protocole sera signé ce mardi 14 mars 2017 à l'Élysée entre l'État, la communauté de Sant'Egidio, le Secours catholique, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante. Objectif, permettre l'accueil puis l'intégration sécurisée de 500 migrants syriens vulnérables en un an et demi. Sélectionnés au Liban, ils seront transférés par avion en France, évitant la dangereuse traversée maritime de la Méditerranée. L'État s'engage à leur fournir rapidement le statut de réfugié, les associations à accompagner leur installation. Valérie Régnier, présidente de Sant'Egidio France, revient sur le mécanisme et les enjeux du dispositif en France. Elle décrit aussi la genèse du projet qui a d'abord été mis en place en Italie en 2016.
Dès le début du conflit syrien, la communauté s'est rendue compte qu'il fallait absolument faire quelque chose pour les réfugiés syriens puisque la guerre semblait s'enliser, ce qui est le cas encore aujourd'hui malheureusement, et qu'on ne pouvait pas laisser les réfugiés syriens prendre le bateau des embarcations de fortune à travers des passeurs, et ce sont les traversées de la mort. On y meurt. Et donc c'est là que la communauté de Sant'Egidio a commencé un protocole d'ouverture de couloirs humanitaires avec les églises protestantes italiennes et le gouvernement italien. Pourquoi on travaille avec l'État? Tout simplement au niveau des papiers, évidemment. Cela permet de régulariser plus vite les réfugiés une fois qu'ils arrivent dans le pays d'accueil, l'Italie, et demain ce sera la France.
Alors concrètement, comment est-ce qu'il marche ce mécanisme?
Donc très concrètement pour la France, on identifie dans les camps de réfugiés au Liban des personnes vulnérables. En fait, donc ce sont soit des enfants malades, ou des adultes, des personnes âgées, peu importe. Ce sont des personnes qui sont en général en mauvaise santé et si on ne fait rien, risque d'être en très mauvaise santé. Donc voilà l'unique critère au niveau de l'identification, c'est la vulnérabilité. Une liste est déposée au consulat français. Le consulat a 2 mois pour se mettre d'accord avec des partenaires signataires si oui ou non, ces personnes peuvent rejoindre la France et être soignées une fois qu'elles sont en France, hein, qu'on puisse prendre soin d'elles. Et surtout, il y a aussi évidemment la sécurité, la DGSE, qui comprend qui sont ces personnes que l'on a identifiées.
Et ensuite?
Au consulat, ils ont 2 mois pour donner leur réponse. Une fois qu'ils ont donné une réponse positive, le réfugié voyage jusqu'à Paris en avion, donc qui est le transport le plus sûr actuellement. Quand il arrive, il est demandeur d'asile et ensuite le ministère de l'Intérieur a 3 mois pour délivrer le statut de réfugié et le statut de l'état civil qu'il recevra de l'OFPRA. En ce sens-là, ce protocole est très positif avec l'État puisque ce que nous avons demandé à l'État, c'est vraiment d'intervenir au niveau du facteur temps. Nous voyons aujourd'hui en France, que ce soit la communauté de Sant'Egidio, le Secours catholique, la Fédération d'entraide protestante, beaucoup d'associations qui travaillent pour l'accueil des réfugiés. Une des principales difficultés que nous avons, c'est justement de régulariser les papiers au plus vite. Il y a souvent une grande attente, ce qui est très difficile et pour les réfugiés et pour les équipes qui favorisent l'accueil et l'intégration. Il y a une sorte d'épuisement. Et donc nous avons voulu, avec le gouvernement français, réagir par rapport à cela.
Parce que d'habitude, c'est combien de temps, le temps d'attente justement, d'un côté et de l'autre?
Ça peut aller jusqu'à 1 an très facilement, en France. Après, le protocole est très original dans le sens où, en effet, on identifie les personnes dès Beyrouth, dès le consulat français à Beyrouth. Il y a une identification, il y a une vérification de l'identité et un visa de demandeur d'asile qui est donné. Donc on évite aux personnes de traverser la mer Méditerranée et d'arriver de manière illégale en France quand elles arrivent.
Quand on parle d'accueil, on parle aussi d'intégration. Qu'est-ce qui est prévu pour cette intégration?
Je vous parlais du facteur temps. Donc, on travaille beaucoup en amont pour justement accueillir les réfugiés. C'est-à-dire, quand ils arrivent, les enfants doivent être scolarisés très vite pour qu'ils puissent intégrer l'école et apprendre la langue. Les parents aussi ont tout de suite des cours de français, parce qu'on sait très bien que la langue est un des meilleurs facteurs pour l'intégration. Et aussi, évidemment, ils sont tout de suite pris en charge au niveau des soins, puisque souvent, ils sont nécessaires. Et puis, au niveau de la société civile, donc on a dans toutes les associations signataires une équipe de professionnels et de bénévoles. Ça, c'est très important qu'il y ait une collaboration entre bénévoles et professionnels. On s'est rendu compte, parce que bien sûr, nous avons toute une expérience d'accueil et d'intégration, qu'il était très important de travailler bénévoles et professionnels ensemble.
Donc dans ce rôle pour l'intégration, c'est là où vont intervenir Santé Gio, mais aussi le Secours catholique, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante,
oui,
c'est ça?
Tout à fait. Et on a un comité de pilotage et on travaille déjà aux premières arrivées pour que justement les personnes, quand elles arrivent, puissent être intégrées au plus vite, accueillies, avant d'être intégrées, déjà être accueillies.
D'ailleurs, concrètement, où est-ce qu'elles seront accueillies, puis intégrées? Est-ce que ça s'est déjà défini aussi ou pas?
Dans toute la France, pour l'instant, ce sera plus Île-de-France, région Sud-Ouest et Alsace. Ensuite, tout est possible, hein. Il y aura certainement d'autres régions en France. On est en train de contacter les différents diocèses pour l'Église catholique. La Fédération protestante de France aussi travaille avec ses réseaux. Et puis nous travaillons bien sûr avec les préfectures, les paroisses, mais aussi les mairies. C'est très important.
Les églises sont engagées depuis longtemps dans l'accueil des migrants. Mais cette question, elle est sujette à débat au sein même des communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette initiative? Quel en est le message finalement?
Eh bien que déjà, quand la maison du voisin brûle, c'est difficile de rester à ne rien faire. Ce n'est pas supportable de voir des personnes, parce qu'il y a une guerre dans leur pays, qui tentent de se réfugier, de ne pas les accepter, ça c'est sûr. Et justement, on se pose la question de comment alors les accueillir au mieux. Dans ce sens-là, pour nous, c'est répondre à la culture de l'indifférence qu'a pointé du doigt Pape François dès qu'il a été élu pape. Hein. Pour nous, c'est comme un acte de résistance à la culture de l'indifférence et de la peur. Montrer qu'il est possible d'accueillir les réfugiés pour le vivre ensemble aussi entre Français. C'est-à-dire le vivre ensemble est très important et l'accueil des réfugiés permet un meilleur vivre ensemble quand évidemment il est bien fait, il est préparé en amont. Et c'est surtout résister à cette culture de l'indifférence. La maison de mon voisin brûle, qu'est-ce que je fais?
Le dispositif prévoit l'inclusion en France donc de 500 personnes dans les 18 mois après la signature du protocole. Finalement, 500 personnes, on pourrait se dire que c'est très peu. Est-ce que c'est un début? Et deuxième chose, c'est mis en place en Italie, en France. Est-ce qu'il y a aussi des idées peut-être pour l'avenir autre part?
Évidemment, en effet, 500, on peut dire c'est rien. Et c'est vrai, c'est pas grand-chose par rapport au nombre de personnes qui cherchent à rejoindre un pays en paix. Ceci dit, c'est un projet pilote, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, on préfère aussi, pour un meilleur accueil et une meilleure intégration, commencer avec peu de personnes, si j'ose dire, pour qu'on soit bien au clair dans l'accueil, dans l'intégration, que ça se fasse petit à petit. Mais bien sûr que cet accueil et que cette intégration soient contagieuses, je dirais, par l'ensemble de la société civile et par l'ensemble des citoyens. Donc pour cela, il faut y aller aussi petit à petit, par rapport justement à certaines peurs qu'il y a. On ne peut pas résister à la culture de l'indifférence et de la peur d'une manière massive, parce que aussi on n'a pas les moyens. C'est-à-dire on fait aussi avec nos moyens. Nos moyens aujourd'hui en France, c'est 500 réfugiés sur une période de 18 mois. On espère que, bien sûr, ça se passera bien et qu'on puisse continuer cet accueil, évidemment, donc l'élargir. Et comme vous le disiez, l'Italie a été le premier pays à proposer ce protocole. On a pensé à Santé Gio qu'il était possible de le répliquer dans d'autres pays. Je suis très heureuse aujourd'hui que ce soit en France, donc comme deuxième pays. Et bien sûr, si c'est possible en Italie et en France, je ne vois pas comment cela ne serait pas possible en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Allemagne, par exemple, ou même dans d'autres pays européens. Et en effet, nous sommes en train de travailler dans tous ces autres pays et je crois que c'est bien parti aussi, qu'il y a de bonnes réponses. C'est long parce qu'il s'agit de parler, de se mettre ensemble, de se mettre d'accord sur des termes, sur un protocole. Donc ça ne se fait pas très rapidement, mais il est bon aussi de prendre le temps de discuter pour justement mettre en place un bon protocole.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.